permet de créer une base de données fiable à jour des Africains qui permettra de faire du knowledge management.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire appliquer les techniques de data science, machine learning et de l'intelligence artificielle pour produire une cartographie de la santé, visant à prévenir et à contenir les pandémies, endémies et autres maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, Apollo facilite un déploiement de plusieurs campagnes de sensibilisation et de vaccination. Et aussi, nous avons une manière très efficace de gérer les ressources humaines disponibles parce qu'il faut savoir que nous sommes un des sèvres en Afrique.
Vous voulez dire que nous, les Africains, nous sommes mal desservis et c'est l'un des défis que veut relever Apollo.
C'est une plateforme qui touche à tout. Comme en Afrique, on ne le dira pas assez, on accuse une lenteur incroyable dans toutes les démarches administratives. Et eux ne pouvons que s'ajuster à cela en espérant l'améliorer. Mais Apollo en lui-même permet à tout individu lambda d'avoir déjà son healthcare record, je dirais son carnet de santé à portée de main, d'être connecté à un médecin direct et d'avoir accès à celui-ci à n'importe quelle heure parce que ce dernier n'aura pas à chercher. Il aura votre carnet médical et toutes vos informations en face de lui pour même, lorsqu'il sera à distance, donner des conseils au médecin traitant qui sera présent ce jour-là.
Et ça, ça va forcément améliorer la santé en Afrique.
On évite la malpractice, comme on le dit en fait en français, ça on permet d'éviter les erreurs médicales et consorts.
Est-ce que ça veut dire, Cheikh, que n'importe qui peut avoir accès à Apollo, tout le monde peut utiliser cette application?
Yes, tout le monde peut utiliser l'application.
Quand est-ce que l'application Apollo pourrait-elle être accessible au public?
À partir du 4 décembre, tout Africain, quelle que soit sa situation géographique, pourra télécharger l'application sur l'App Store et Google Play. Ensuite, nous avons la
campagne. Mais ça sera coûteux?
Pardon?
Combien ça va coûter?
0 franc, parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est au-delà de notre personne. Nous ne cherchons pas à nous enrichir ici.
L'utilisation de l'application Apollo sera-t-elle gratuite?
C'est complètement gratuit. Notre objectif n'a jamais été de s'enrichir, mais d'aider l'Afrique à obtenir une place de qualité dans le Conseil des Nations. Nous avons des soutiens de taille à travers George Washington University, la National Science Foundation, qui est l'entité qui a rendu le rêve Google une réalité. Nous avons Amazon, AWS, Salesforce et bien d'autres. Donc la population africaine est notre priorité. Alors, ce service, cette application sera gratuite, entièrement gratuite pour l'Africain lambda.
Et vous étiez en train de parler d'une campagne de vaccination, laquelle?
Yes, nous avons une campagne Moment Children.
Vous voulez dire la mère et les enfants en français?
C'est le nom de notre campagne qui sera lancée en janvier. À travers cette campagne, nous avons pour objectif de rendre la grossesse agréable.
Wow.
C'est-à-dire toute femme enceinte à compter de janvier 2020 pourra se faire suivre par un docteur et une sage-femme.
Grâce à Apollo?
Oui, grâce à Apollo tout au long de sa grossesse. Ceci permettra de réduire le risque des grossesses et plus loin de suivre la santé mentale de la mère parce qu'il y a des situations post-traumatiques après l'accouchement et tout.
Cela signifie-t-il que grâce à Apollo, les femmes seront suivies même après l'accouchement?
Pendant la grossesse et après la grossesse, la mère sera suivie. Vous savez que le pourcentage de la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne compte pour 62% du taux mondial et 50% des nouveaux-nés en Afrique subsaharienne. 50% des morts des nouveaux-nés dans le monde se retrouvent en Afrique subsaharienne. C'est pour lutter contre ce fléau que nous avons décidé de lancer cette campagne-là. Ça nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et sachant que l'Afrique aura une population de 2,5 milliards à l'orée de 2050, c'est-à-dire qu'on aura pratiquement doublé notre population. Il faut qu'il y ait un suivi très, très précis de toutes ces grossesses pour protéger la mère, pour protéger l'enfant. Donc, cette campagne sera lancée à partir de janvier.
Concrètement, comment ça va se passer? Si le médecin est dans la capitale et puis la femme enceinte, elle est dans un village, comment est-ce que le suivi va se faire?
Comme je le disais tantôt, Apollo permet la distribution des ressources humaines sanitaires. Lorsqu'une femme, à travers l'application Apollo, déclarera qu'elle est enceinte, on lui donnera immédiatement toute sa liste de rendez-vous avec le docteur le plus proche.
Et le médecin aura déjà accès à toutes les informations de ces malades.
Le docteur qui sera le plus proche d'elle sera immédiatement affecté pour la suivre. C'est-à-dire, il aura son carnet de santé et tout à portée de main pour qu'il puisse faire des précisions et des analyses chaque jour.
J'aimerais savoir si la sage-femme est aussi impliquée dans ce processus et puis quel est le rayon de distance entre la patiente et le médecin, entre la femme enceinte bien sûr et le médecin.
Il y aura maintenant une sage-femme qui sera encore vous. Nous essayons de mettre dans un rayon de 5 km pour qu'elle puisse vraiment être en amont de toute situation. Elles seront les premiers points de contact avec le docteur. Pendant le quotidien de la grossesse, elle pourra contacter la sage-femme n'importe quel soin. Et lorsque la sage-femme se verra dans le besoin de partager avec le docteur pour qu'il puisse faire d'autres prescriptions, elle pourra le lui redire. Notre objectif, c'est d'assigner un docteur à chaque femme et une sage-femme qui sera très proche d'elle, qui la suivra pendant toute la grossesse.
Ça sera vraiment super. Hein. On attend le moment. Merci. Et puis on pourra discuter aussi avec les utilisateurs d'Apollo pour voir quelles sont les merveilles que ces personnes vont découvrir ou vont vivre grâce à Apollo.
Je serai ravi d'écouter le feedback.
Où est-ce qu'on peut utiliser Apollo en ce moment-ci?
Apollo, c'est venant des SCB Systems. L'objectif, c'est de servir l'Afrique. Donc, Apollo, pour apporter africaine, mais comme l'adage le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. En tant qu'Ivoirien, nous avons commencé par la Côte d'Ivoire.
Quels sont les différents volets qu'on peut trouver dans l'application Apollo?
Avec Apollo, nous avons plusieurs volets. Nous avons le volet hôpital est tellement gigantesque. En ce moment, nous préparons l'implémentation d'Apollo dans un hôpital public en Côte d'Ivoire, centre hospitalier public. Pour cela, il va falloir revoir tout le backbone complet de la connectivité pour permettre aux hôpitaux africains d'être à la pointe. Nous sommes en Côte d'Ivoire, je pense aussi au Burkina.
Êtes-vous déjà en contact avec les autorités burkinabées?
Nous avons entamé avec le Burkina quelques conversations pour qu'on puisse mieux s'étendre dessus et voir comment nous pourrons lancer Apollo. C'est beau bien de dire, c'est bien beau la moderne, la mondialisation, mais il n'y a rien de meilleur que l'espèce locale qui est cinétique et irréprochable. C'est-à-dire des Africains au devant des choses qui sont en train de mettre leur population, leurs frais en priorité pour une qualité de vie.
Pour réaliser tout cela, vous avez besoin de travailler aussi en collaboration avec les autorités. Comment se passe votre collaboration avec les gouvernements locaux et les autorités sanitaires des endroits où vous avez choisi de travailler?
Notre collaboration avec le gouvernement ivoirien se passe bien. Nous avons deux ministères en Côte d'Ivoire qui touchent réellement à notre domaine. Il s'agit du ministère de l'économie numérique et celui de la santé. Ils ont été très heureux de la solution Apollo. J'ai été en Côte d'Ivoire en juin passé.
Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays, mais j'aimerais savoir si vous avez un contrat avec les autorités ivoiriennes.
Apollo est multidimensionnel. L'importance que donne le ministère de l'économie numérique, qui a plus d'expertise technologique, est très, très encourageante. En Côte d'Ivoire, le président, son excellence Ouattara, a une politique tournée vers la jeunesse. C'est dans cette logique que le ministre des Affaires présidentielles, encourage toute innovation portée par la jeunesse et bien sûr par la diaspora que nous représentons. Nous sommes en phase de signature d'une convention très bientôt avec le gouvernement ivoirien. Avec le Burkina, comme je l'ai dit tantôt, nous entamons la communication.
Est-il facile de gérer toutes ces initiatives?
Ce n'est pas facile d'être africain. Proposer une solution aux normes internationales qui est déjà encensée aux États-Unis. Il y a des sociétés très puissantes qui seront immédiatement concurrentes, sachant qu'elles ne proposent jamais des solutions adéquates. Nous sommes les seuls à mesure de régler le mot africain. Il ne s'agit pas de calmer, mais de guérir. Nous avons plus de chances de trouver la racine de nos mots que quiconque qui n'a jamais vécu en Afrique. La pratique apporte une expérience différente de la théorie. Nous voyons plusieurs institutions internationales qui vont en Afrique, qui disent qu'elles ont des solutions pour régler, mais l'Afrique ne change jamais. Le philosophe Socrate l'a dit, « The measure of a man is what he has with the power. » Qu'est-ce qu'un homme fait lorsqu'il est en position de pouvoir?
Et pour vous, offrir Apollo aux Africains, c'est leur offrir un certain pouvoir.
Je suis rassuré que chaque Africain, à travers votre canal, adoptera Apollo en décembre et effectuera le bilan annuel de santé à moindre coût que nous proposons. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est l'Eldorado. Il faut qu'elle soit en bonne santé pour que nous puissions entamer cette phase de développement. Je tiens tous à cœur.
En dehors de la campagne de la femme enceinte, pour qu'elle soit bien suivie, quels sont d'autres projets que vous comptez mener grâce à Apollo?
Déjà, avec Apollo, le bilan annuel de santé se fera à travers Apollo à moindre coût. Je pense que nous en avons déjà parlé et notre solution, c'est de vulgariser le bilan de santé. Nous voulons amener chaque Africain à connaître son état de santé. À partir de décembre, dès que l'application pourra être téléchargeable, en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour un départ, nous aurons en charge tous les éléments disponibles pour chaque Ivoirien déjà faire son bilan de santé.
L'application Apollo s'intéresserait-elle aussi à la couverture maladie?
Lors de notre dernier séjour en Côte d'Ivoire, nous avons discuté avec la CMU, la couverture maladie universelle qu'ils ont en place là-bas. Je pense que en ce moment, il faut une couverture plus totale. Apollo peut régler cette situation en un rien de temps. Nous allons nous pencher sur ce cas parce qu'il serait très, très agréable de voir tout Ivoirien assuré et à mesure de se soigner à moins de coûts. Voilà un peu qu'est-ce que nous avons en phase en ce moment pour développer tout.
Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique, il y a beaucoup de pays. En combien de temps comptez-vous couvrir le reste de l'Afrique ou un minimum de pays africains?
L'Afrique de l'Ouest, dans notre planification, doit être couverte sous 6 mois. Lorsqu'on dira le mois de mai, on aura couvert la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, de là, nous allons aller vers l'Afrique australe et l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne est la partie la plus touchée, donc nous allons la couvrir en entièreté avant d'aller en Afrique du Nord.
Est-ce que vous êtes intéressé à vous engager dans des partenariats avec d'autres structures?
Nous sommes vraiment ouverts à travailler en collaboration avec tout gouvernement intéressé qui voudra bien mettre son peuple et le bien-être de son peuple au centre de sa politique de développement.
Pourquoi avoir donné à l'application le nom Apollo?
Apollo, en grec ancien, le dieu grec le plus puissant. D'ailleurs, il est considéré comme le dieu de la santé aussi. Donc, Apollo, pour nous, couvrait complètement assez notre objectif de couvrir l'Afrique, d'améliorer la santé. Mais plus loin, je peux vous donner une anecdote. Mon meilleur ami Ismaël Grandbouté, nous lui avons donné un petit nom, Papalo. Apollo et Papalo rimaient ensemble et donc nous avons opté pour Apollo.
Quel est le processus de mise à disposition d'une application mobile en santé? Combien ça vous a pris le temps?
Bon, en général, tout d'abord, il faut avoir une raison pour la création d'une application mobile en santé. Ensuite, il y aura 5 étapes que je définis comme la validation du modèle de business.
Et quelles sont ces 5 étapes?
L'étape de la confirmation des fonctionnalités, l'étape du design de l'application, l'étape de l'élaboration de la sécurité et de la conformance aux lois en vigueur dans chaque pays, et l'étape du développement de l'application pour terminer. Avec nous, Arlo, nous sommes maintenant à 19 mois en fait de développement. Nous avons pu avoir la chance d'avoir différents dons de la part d'Amazon, 100 000 $ par-ci, 50 000. Nous avons été chanceux d'avoir un produit qui fait l'unanimité. À George Washington University, le directeur de l'innovation était juste ému. Il dit « Wow, c'est so big ». On dira que c'est une chance d'avoir un truc qui est, pour le moment, l'innovation la plus adaptée aux problèmes africains.
Est-ce que vous êtes vous-même satisfait de ce que vous réalisez à travers Apollo?
Simplement satisfait, je suis à 100%. Je peux le dire en anglais si possible.
Oui.
I have all my heart, yes. How my heart is like based on like Apollo. I wanted to make it successful
donc,
and everything.
Vous êtes entièrement dévoué à Apollo. Votre cœur est entièrement dévoué à Apollo.
Yes.
Et vous voulez que ça marche.
Yes.
Et vous voulez vraiment que ça réussisse.
Yes. Bon, je sais que ça marchera vu que c'est imminent. Et en plus, la chose la plus importante, c'est que c'est vital pour l'Afrique. C'est vital pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse embrasser Apollo et nous serons tous heureux du résultat.
Merci beaucoup, Cheikh. Ça a été un plaisir de vous entendre répondre à nos questions.
Ce fut un plaisir, toujours heureux de partager des moments avec vous. Merci beaucoup.
Vous venez de suivre Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems, doctorant en ingénierie management et surtout inventeur d'Apollo, une application qui facilite la télésurveillance et la téléconsultation des malades. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine dans Carnet de santé, couvre-feu, annulation de vol, distance sociale. L'Afrique prend des mesures agressives afin de ralentir la propagation du COVID-19. En RDC, les écoles ferment pour lutter contre la pandémie. Nous irons à Minneapolis pour voir l'impact économique de cette crise sur des entrepreneurs somaliens. Enfin, le port du masque contre le COVID-19, pour qui et comment? Les explications d'un expert. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'humanité tout entière est menacée. C'est ce qu'a déclaré récemment l'Organisation mondiale de la santé concernant le COVID-19. La pandémie du nouveau coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement, avec des centaines de milliers de cas dans le monde et des milliers de décès. Cette pandémie pose de nombreux défis en Afrique, vu l'augmentation du taux d'infection. Les autorités sur le continent réagissent de manière agressive pour arrêter la propagation du virus, avec entre autres confinement, fermeture d'écoles et restrictions de voyage. L'Afrique, à ce jour, a le nombre de cas le plus bas au monde. Mais les responsables de santé affirment que la pandémie reste une vraie menace. Voici le reportage d'Anita Powell, correspondante de la VOA à Johannesburg.
Le nouveau coronavirus se propage à travers le continent africain, infectant des centaines de personnes dans au moins 30 pays, dont le Burkina Faso, le Cameroun, l'Éthiopie, le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Ce dernier pays comptant actuellement le plus grand nombre de cas en Afrique subsaharienne. Bien que l'Afrique ait pour l'instant le moins de cas, le chef de l'Organisation mondiale de la santé n'a pas mâché ses mots sur la façon dont le continent se comporterait si le virus n'était pas rapidement contrôlé.
Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour prévenir la propagation du virus. Parce que nous avons vu comment le virus se répand rapidement sur d'autres continents et dans d'autres pays. Tel est notre conseil. Je pense que l'Afrique devrait se réveiller. Mon continent devrait se réveiller.
Les responsables du secteur de la santé se disent particulièrement préoccupés par les problèmes de santé trop fréquents dans certaines parties du continent.
Nous n'avons pas encore vu comment ce virus affectera les populations vulnérables. Nous n'avons pas vu quel sera l'impact de ce virus face à des populations vulnérables avec une forte prévalence du VIH, par exemple, ou face à des enfants malnutris. C'est à cela que nous devons nous préparer.
L'Afrique du Sud compte à ce jour au moins 150 cas avérés de coronavirus. Le nombre croissant des malades a incité le président Cyril Ramaphosa à annoncer des mesures strictes pour tenter de ralentir la propagation du virus. Parmi ces mesures, une interdiction de voyager en provenance des pays à haut risque, mais aussi des fermetures d'écoles et une interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes. À noter que l'Afrique du Sud est le pays qui compte le plus grand nombre de personnes atteintes de VIH au monde.
Je pense qu'il n'y a pas encore vraiment d'informations spécifiques sur la façon dont cette maladie affecte les personnes infectées par le VIH. Mais si nous prenons en compte ce que nous savons sur d'autres virus respiratoires et la façon dont elles se manifestent chez les personnes porteuses du VIH, nous voyons bien que les personnes infectées par le VIH, en particulier celles qui ne suivent pas de traitement, courent un risque de maladie bien plus grave.
Les experts peu optimistes disent que l'Afrique doit se préparer à des moments très difficiles.
À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les salles de classe sont vides et les salles de conférence fermées suite à l'annonce des nouvelles mesures radicales conçues pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Le président Félix Tshisekedi a annoncé des mesures drastiques, suspension des vols vers les pays à risque, fermeture des écoles, des bars, des restaurants, des lieux de culte et des salles de deuil.
Nous sommes contents du fait que le gouvernement ait pris ces mesures qui sont des mesures préventives pour nous.
Les écoles de la ville de Kinshasa sont désormais vides ainsi que les universités. Mais avant de renvoyer les élèves à la maison, les directeurs des écoles leur ont recommandé d'éviter tout attroupement de plus de 20 personnes sur le chemin du retour. Les universités, les instituts supérieurs ont emboîté le pas pour faire face à la propagation du virus du Covid-19.
Et là, nous avons dit aux parents de garder les enfants soigneusement, qu'ils ne sortent pas dans des groupes là où il y a beaucoup de gens. Et dès qu'ils rentrent dans la maison, ils doivent laver les mains.
Des dispositifs de précaution et d'hygiène ont été mis en place à l'entrée des banques et des services publics de l'État. Par contre, les marchés et le transport en commun continuent de fonctionner comme d'habitude.
Est-ce que le mesure de fermer les écoles, les hôtels et tout, c'est bien bon. Mais dans des bis, est-ce qu'ils ont pris des dispositions? Dans des institutions de l'État, ils ont pris des mesures?
Le président a également annoncé des mesures préventives qui devraient paralyser la vie sociale du pays qui compte au moins 80 millions d'habitants. Les stars congolaises Fally Ipupa et Koffi Olomide participent aussi à la sensibilisation de la population contre la propagation du nouveau coronavirus en République démocratique du Congo.
Retour ici aux États-Unis où les bars et les restaurants ont été fermés dans plusieurs États afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus. À Minneapolis, au Minnesota, des entrepreneurs somaliens au centre commercial Carmel disent avoir été affectés par ces fermetures. Regardez.
L'épidémie de coronavirus a affecté l'économie et nous avons mis à pied des employés parce que nous n'avons pas de quoi les payer. La salle à manger est fermée en raison du virus et seules quelques personnes viennent chercher des plats à emporter. Nous ne sommes ouverts que quelques heures par jour. Nous ne pouvons pas fermer l'entreprise car nous avons un loyer à payer et personne ne peut le payer pour nous.
Le plus gros problème que nous avons avec le COVID-19 est que tous les billets que nous avons émis avant ont été annulés à travers le monde et cela nous affecte. Le secteur de voyage a été touché et cela a diminué notre clientèle. Leur sécurité est si importante. Nous sommes ouverts parce que nous recevons des appels de ceux qui devraient voyager. Nous les aidons à changer les billets ou à se faire rembourser.
Le coronavirus a impacté et ralenti notre activité. Nous dessinons du henné et décorons des femmes qui vont au mariage et autres événements. Le coronavirus est arrivé et des restrictions ont été imposées afin que pas plus de 10 personnes puissent venir ensemble jusqu'à nouvel ordre et les gens sont invités à rester chez eux, ce qui nous a touchés et a affecté notre entreprise.
Il faut noter que le centre commercial Carmel a depuis fermé ses portes à cause de la pandémie. Après plus de 700 000 infections et au-delà de 34 000 décès, la pandémie de coronavirus pousse les gens à modifier leurs habitudes quotidiennes. La distance sociale, pratique adoptée à travers le monde pour lutter contre le COVID-19, était l'un des thèmes abordés par des experts mondiaux de la santé durant un forum organisé par la VOA. Reportage de Mariama Diallo.
Par souci d'appliquer la nouvelle règle de distanciation sociale, tous les participants à la conférence de la VOA ont joint la discussion par écran interposé. Alors que les dirigeants mondiaux mettent en garde contre une récession globale et que les populations sont contraintes au confinement, les experts insistent sur la nécessité de revoir radicalement nos modes de vie. Il faut que le public comprenne et se rende compte que même si les jeunes sont moins à risque face au virus, pour les personnes âgées ayant des pathologies respiratoires ou des systèmes immunitaires fragilisés, le risque de complications est bien plus grand. Selon le docteur Camia Raleigh, de nos jours, le public est submergé d'informations contradictoires. C'est donc aux autorités de regagner la confiance des gens en les aidant à séparer le bon grain de l'ivraie. Il est clair que s'il n'y a pas d'engagement de la part du public, en particulier de la communauté, nous n'arriverons pas à contrôler cette maladie. Comment pouvons-nous donc restaurer la confiance des gens? Je pense que la seule façon d'y arriver est de faire davantage de sensibilisation, d'être plus transparent, de montrer que ce virus ne s'attaque pas à une tranche de la population en particulier et que tous sont vulnérables. Les experts de la santé affirment que la période d'incubation de ce virus est de 2 à 14 jours, d'où l'importance de la distanciation sociale. Le docteur Ingrid Katz explique que c'est en cela que réside le défi pour les autorités, faire comprendre aux gens qu'il est impératif de respecter les mesures d'éloignement.
SARS and Ebola or other...
La différence avec le SRAS, Ebola ou encore d'autres épidémies massives, c'est que dans le cas du COVID-19, contrairement aux maladies qui viennent d'être citées, les symptômes n'apparaissent pas immédiatement. Avec le nouveau coronavirus, il y a une période pendant laquelle le porteur est contagieux, mais ne présente aucun, voire peu de symptômes.
Low levels of symptoms and absolutely still could transmit the virus.
Cette période d'incubation du COVID-19 est un problème majeur pour ce qui concerne les mesures de confinement.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et d'actualité sur l'épidémie du nouveau coronavirus COVID-19, retrouvez la VOA sur notre site web voaafrique.com. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
Nous
sommes arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la télésurveillance des patients avec notre invité, Sukushek Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Sukushek Bomba est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, un outil important qui facilite la téléconsultation et la télésurveillance des patients et favorise aussi la promotion de la santé en